Crío cuervos. Crio cuervos parce que les corbeaux qui se déploient dans nos têtes échappent à la réalité de la cage dans laquelle on évolue. Crio cuervos, c'est un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les institutions des pouvoirs et au peuple au front de nous, ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève. Un peu de la pétarade euphérique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tous ces vêtements et ces barbelés qui encerrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, et s'encontrer foutant des codes policiers de l'expression raisonnable. Un espace où les fêlés du casque ont libre antenne. Un lien vers la révolte. Crio Cuervos prétend être un outil de résistance au pouvoir psy, un élan vers des pratiques collectives dans un processus de libération de la psychiatrie. Nuestra pasión no es diagnosticable, notre passion n'est pas diagnosticable.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors voilà, ça y est, on prend l'antenne. Après ce laïus décharge, cette envie qu'on avait de faire de la radio, parce que la radio, c'est donner de la voix, c'est offrir à la voix la possibilité de se dire. Et Canal Sud, pourquoi Canal Sud ?
Bah, parce que c'est à la fois politisé et un espace d'écoute sympathique. Donc on s'est dit qu'on passerait bien sur Canal Sud.
Et parce qu'on veut bien que ça continue aussi, cette radio.
Exact.
De manière.
Voilà. Et du coup, on s'est dit aussi qu'il y a quand même plusieurs lieux en France où la radio, où les radios associatives locales proposent des émissions sur le thème de la psychiatrie et folie. Et il était temps qu'on s'y mette ici.
Voilà.
Et on aura sans doute la possibilité de diffuser, rediffuser certaines de ces émissions.
Ouais. Du coup, bah, on va vous présenter un petit peu le sommaire de cette première émission. On va débuter par un truc un peu du côté de la loi, puisqu'il y a une loi qui est passée le 5 juillet 2011 et elle entraîne beaucoup de choses et il y a plein de petits décrets qui sortent avec cette loi. Ensuite, on se fera un petit passage sur une analyse de notre beau langage et des symboles de notre culture, avec aujourd'hui « Pourquoi les fous portent un entonnoir sur la tête ?». On fera aussi une petite présentation de ce qu'est la thérapie radicale, puisqu'on s'oriente quand même vers des thérapies autres qu'institutionnelles. On vous fera une petite lecture d'un passage d'un livre qui s'appelle « Un moment d'absence » de Jean-Luc Payen, avec des réactions sur ses écrits. On parlera également de ce qui se passe en Espagne, avec une rencontre qu'on a faite avec un groupe de gens sur Madrid. Tout ceci entrecoupé de musique, et bien sûr vous pouvez nous appeler pendant l'émission pour nous faire entendre vos témoignages ou pour réagir à nos propos au 05 61 53 36 95. Voilà.
Et tout ça dans l'heure qui vient.
À tout à l'heure.
Sentimientos enfrentados, lo cómodo y lo correcto, acostumbrados a dejarnos llevar, acostumbrados a no posicionarnos, acostumbrados a no echarnos la mano. Tomar partido exige esfuerzo y asumir las consecuencias. Es fácil acomodarse, el mundo entero está pensado para ello, pensado para ello, pensado para ello. Por comodidad nos dejamos a nosotros mismos, por comodidad fusilamos nuestros deseos, por comodidad perdemos el brillo, por comodidad la vida es tensión, la paz es la muerte. Está también en nuestras cabezas, anidando confiado, navajazo, navajazo, navajazo. Continuo conflicto interior que nos lleva a hacer las cosas mejor. Acomodarse jamás, hay ferry cortico en la vida.
Alors, bah, comme prévu, on était décidé à parler un petit peu de cette loi qui est passée en juillet 2011. Cette loi s'appelle la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Elle est passée en vigueur au 1er août et en fait, cette loi a été attendue depuis 1990 puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré certains éléments de la loi de 90 contraires à l'article de la Constitution numéro 66 qui parle des libertés individuelles. Donc cette loi devait être révisée et puis notre président a utilisé un fait divers où un jeune homme a été assassiné pour tirer tous les fous, entre guillemets, vers des gens dangereux et à criminaliser. Donc cette loi arrive à point nommé. Et donc aujourd'hui, il y a des points à préciser de cette loi, des points à préciser puisque cette loi devient des soins sans consentement. Donc on n'est plus sans consentement lié à un lieu, c'est-à-dire sans consentement sur un hôpital, mais maintenant on est soigné sans consentement en tant que personne. Donc cette mesure-là se déplace dans la ville et suit la personne. Et donc il faut préciser aussi cette modalité de suivi, comment on va suivre les gens qui sont en soins en ambulatoire sans consentement. Donc là, à l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de la Cohésion sociale sont en train de plancher là-dessus pour un peu préciser qui intervient et comment. Il faut savoir qu'avant, on était hospitalisé, on avait un régime d'hospitalisation et quand on sortait de l'hôpital, on quittait ce régime, on était libre à l'extérieur. Maintenant, c'est plus le cas, c'est-à-dire que si on sort de l'hôpital et que le médecin estime qu'on n'est pas forcément en état d'être sans mesure de contrainte, on rentre dans ce qu'on appelle un programme de soins. Donc par exemple, le psychiatre dit de 8h à 17h, telle personne se rend à l'hôpital le jour, et puis le soir, elle prend le bus et elle revient à l'hôpital. Tout est agencé, c'est-à-dire on sait exactement à quelle heure, en théorie, la personne, où est-ce qu'elle doit se trouver. On est dans un suivi très rapproché de la personne. Donc ce suivi en ambulatoire, il implique les différentes institutions et donc on va parler du patient, on va parler de lui, on va dévoiler un certain nombre de points du secret médical par exemple, où on doit dire
aux travailleurs médico-sociaux,
voilà,
assistants sociaux.
Voilà, chacun des membres du suivi est au courant de ce qu'il en est de la pathologie de cette personne et des allées et venues de cette personne.
Des médicaments qu'il prend aussi, non ?
Ça peut, suivant le statut de la personne, mais c'est surtout sur les horaires et la place de chacun. Cette loi a aussi introduit quelque chose d'important, c'est que avant, pour être hospitalisé à la demande d'un tiers, c'est-à-dire par un membre de notre famille, il fallait un tiers. Aujourd'hui, ils ont légalisé une mesure qui commençait à se généraliser mais qui n'était pas officielle, et donc aujourd'hui c'est possible, on peut hospitaliser quelqu'un sans proche, sans tiers, c'est une mesure qu'on qualifie d'urgence quand même. Et on parle de soins sans consentement à la demande d'un tiers d'urgence. Et donc là, si on n'arrive pas à identifier un tiers, eh bien, il peut y avoir un médecin de l'hôpital, il peut y avoir une assistante sociale, quelqu'un qui, dans une procédure d'urgence, prend la responsabilité légale d'hospitaliser la personne.
Alors, la différence, c'est qu'avant, on pouvait hospitaliser quelqu'un sans son consentement. Il faut le consentement de la famille. Et maintenant, on n'a plus besoin de demander à la famille. Mais voilà. Quand même, avant, on ne demandait pas non plus à la personne de l'enfermer ou pas.
Oui, c'était quand même un petit peu plus compliqué puisqu'il fallait dans les deux jours réguler tout ça et est-ce qu'on trouve quelqu'un qui autorise cette hospitalisation. Ou alors on en passait par le préfet puisqu'on passait directement à une hospitalisation qu'on appelait d'office, maintenant qu'on appelle à la demande d'un représentant de l'État. Cette loi, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte vraiment une logique de tout ce qui est convention, protocole, c'est-à-dire on va faire signer des conventions pour un organisme social, pour un organisme territorial, pour la police, pour le judiciaire. Tout est tracé, tout est protocolisé dans cette loi. Plus personne n'a de décision à prendre puisque tout est marqué sur les papiers. Cette loi officialise aussi un fichier informatique des admissions sans consentement. Donc ça veut dire que dès qu'on a eu une expérience qui nous a amené à croiser l'hôpital, on est inscrit ad vitam aeternam sur un fichier. Il y a encore un point qui est quand même très très important, c'est que Pendant ce temps d'hospitalisation, on trouve dans le Code de la santé publique un petit article discret qui nous dit « Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète, conserve, à l'issue de ses soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen sous réserve. » Ce qui veut dire quand même que pendant le temps de l'hospitalisation, on n'est pas pleinement un citoyen.
Ça fait, rien que le titre, l'intitulé de la loi est assez évocateur. Relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, on est loin de la version du soin somatique où la personne est sujet de soins, où tout s'organise autour d'elle en fonction de ses décisions, où on va, depuis 2002, la loi Kouchner, tout ça, inciter le patient à participer à ses soins. Mmh. Avec notamment en ayant aussi possiblement recours à la personne de confiance qui peut être là pour assister aux discussions avec le médecin, qui peut être là pour expliciter des trucs que tu comprends pas, par exemple en psychiatrie, et c'est pas forcément des proches de la famille. Et ça, c'est vraiment un truc à l'HP, on a l'impression ah, il y a pas de tiers parce que il y a pas de proches de la famille qui veulent signer. Or la présence quoi, les proches, c'est pas seulement la famille, quoi. Mmh. Et que c'est peut-être même plus judicieux des fois d'avoir un pote qui est là avec qui tu partages beaucoup plus de choses pour te soutenir, quoi.
Mais tout à fait, parce que très souvent c'est la famille les problèmes aussi.
Exactement.
Aussi, c'est l'entourage qui favorise le pétage de plomb. En tout cas, par exemple, cette loi, l'idée c'est que avant on était hospitalisé. On avait pris les soins qu'on nous avait proposés et on sortait de l'hôpital. Bon, on n'était plus considéré comme hospitalisé. Alors qu'aujourd'hui, quel que soit le traitement qu'on suit ou pas, on est suivi à l'extérieur. Voilà. Il n'y a plus de fin définitive d'une hospitalisation où on devient libre. Ce programme de soins perpétue quelque chose dans le temps d'une hospitalisation sans consentement. Et donc finalement, on rentre facilement à l'hôpital. Mais on n'en sort plus, entre guillemets, puisque quel que soit l'endroit où on se trouve, on est quand même considéré comme hospitalisé sans consentement, soigné sans consentement. Après, ces décrets actuels qui sont mis en place par les différents ministères vont servir aussi à définir qu'est-ce qui se passe quand la personne n'est pas bien, entre guillemets, qu'elle n'est pas consentante, et qu'elle est à son domicile et qu'elle n'accepte pas de suivre l'équipe soignante pour revenir à l'hôpital. Et donc là, il y a un certain nombre de conventions qui vont être signées. Qui intervient ? Est-ce que c'est la préfecture de police ? À quel moment l'équipe soignante prend appel à l'aide, entre guillemets, les préfectures de police pour intervenir, etc. C'est vraiment ça qui est en train de se déployer sous forme de conventions et d'enveloppes budgétaires qu'on va donner à chaque organisme.
Extraordinaire.
C'est extraordinaire, c'est clair. Après, en plus, à une époque, on pouvait, avant ce passage de la loi, on pouvait être seul à certains moments pendant l'hospite. On avait ce qu'on appelait des sorties d'essai. Aujourd'hui, on n'a plus de sorties d'essai, c'est-à-dire c'est des sorties accompagnées de courte durée. Mais c'est forcément accompagné soit d'un membre du personnel soignant, soit d'un membre de la famille. Et les programmes de soins hors hospitalisation se font quand même toujours avec quelqu'un qui nous accompagne.
Jamais tranquille,
toujours avec les autres. Ah oui, et le dernier tout petit point, c'est que les gens qui sont considérés comme en irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qui ont commis par exemple un homicide et qui n'ont pas été reconnus responsables de leurs actes, rentrent à l'hôpital. Alors pour eux, c'est comme les longues peines, hein. On ne sort plus jamais de l'hôpital ou de ce statut de sans consentement.
On en reparlera sans doute de l'UHSA, ouais. De Marchand, tout ça. Ouais.
On redéploiera tout ça une prochaine fois.
Ouais. De quoi devenir mongoloïde. We'll be right back.
Vous êtes sur Canal Sud, Canal 92.2, sur Clio Cuervos. Alors voilà, on vous encourage fortement à nous appeler, voilà. Parce qu'on vient vous entendre, alors, si vous voulez dire des conneries, vous êtes libre de les faire, et voilà.
Nous appelez au...
c'est vrai que sinon, 05 61 53 36 95.
Goody. Bon, du coup, c'est l'occasion ou jamais de discuter d'un point fondamental. Pourquoi représente-t-on les fous toujours avec un entonnoir sur la tête? C'est quand même une drôle d'idée. Est-ce que c'est pour s'assurer que l'entonnoir il maintient les idées bien en place? Est-ce que c'est pour que la pression de la folie, là, ça carbure, ça puisse s'échapper par le petit tuyau de l'entonnoir? Ou bien est-ce que parce que les fous, ils portent un entonnoir sur la tête parce qu'ils savent pas que c'est pas un chapeau? Allez savoir. Et donc, j'ai un peu cherché à savoir, vite fait, comme ça. Figurez-vous que c'est l'objet de bien des discussions parce qu'on ne sait pas tout à fait. Il y a une approche qui m'a semblé savante et docte, et donc c'est celle pour laquelle j'ai opté, à savoir qu'au XIIIe siècle, et plus précisément en 1215, au consul de Latran, il a été décidé que les Juifs devaient porter un signe distinctif, qu'on les remarque bien, pour que les chrétiens n'aillent pas fricoter n'importe où, avec n'importe qui.
Ah, c'est dégueulasse, sinon. Hein.
Voilà. Et donc, a été décidé, ce signe distinctif était particulier à chaque pays. En France et en Espagne, c'était la rouelle. Ça ressemblait à un écu pour remémorer, bien sûr, les 30 deniers de Judas, puisque on sait ce qu'il a fait. Et en Angleterre, c'était un signe en forme des tables de la loi. Et en Allemagne, on s'approche, en Allemagne, c'était le Pileus cornutus, une coiffe traditionnelle au départ, qui a été imposée. Pour vous donner une idée, parce qu'on en voit beaucoup dans l'art chrétien germanique médiéval, c'est un peu entre le joystick et le plot de chantier, grosso modo, comme chapeau. Un espèce de cône bien, bien roide sur une calotte aplatie. Voilà. Et donc... À partir de cette date-là, en Allemagne, on a représenté sur les tableaux les Juifs portant ce Pileus cornutus. Ça a fait bien rire. Et petit à petit, on en a fait un entonnoir, parce que c'était quand même encore plus rigolo de le représenter avec un entonnoir. Et cet entonnoir, on le retrouve dans les tableaux de Bruegel et de Bosch, notamment sur un tableau assez impressionnant, et ça fera l'objet d'une prochaine... chronique, puisque c'est le tableau sur l'extraction de la pierre de la folie, qui date de 1475. Et donc, on voit sur ce tableau un chirurgien avec un espèce de scalpel qui ouvre le crâne d'une personne assise sur une chaise pour lui enlever la pierre de la folie, puisqu'à l'époque, à un moment, on a représenté ça sous la forme d'une pierre. Ce qui faisait un peu trop de trucs dans la tête, là, ce qui secouait un peu, c'était cette pierre. Et étonnamment, et là on voit là la ruse des peintres, ce n'est pas le fou qui porte l'entonnoir, mais c'est le
médecin.
Voilà, parce qu'on voit bien que hop, coco, là tu nous fais de la psychiatrie de base, c'est quand même pas très crédible.
Moi j'ai trouvé une autre version possible aussi de l'entonnoir, c'est que on représente souvent un raisonnement logique sous forme d'un triangle qui découle, c'est-à-dire... les premières causes assez larges au départ, et puis on réduit un certain nombre de facteurs jusqu'à que quelques éléments, et donc ça fait une sorte d'entonnoir. Et donc, comme les fous ne sont pas du tout logiques, et ben, ils sont dans l'autre sens,
ils ont leur tête. Une autre vision de la Trinité.
Voilà. Par exemple.
Ouais. Et une autre petite, juste une petite, un bonus aussi, sur le coup de travailler du chapeau, parce que c'est une autre aussi question, pourquoi on dit celui-là il travaille du chapeau. Eh bien, en Angleterre, l'expression équivalente c'est mad as a hatter, et a hatter, c'est un chapelier, puisque au 18e, 19e siècle, on utilisait du mercure pour faire ses chapeaux, et les gens les ouvriers qui bossaient dans ces usines à chapeaux, ils accumulaient le mercure dans leur sang, et ils devenaient complètement gaga, déjà, souffrance au travail.
Ah, comme moi dans les plombages, c'est ça qu'ils m'ont dit le jour, voilà.
Eh bien, bientôt, on dira, bientôt. Fou comme un carrier.
Voilà. Ok, alors voilà, maintenant, on va passer à la psychiatrie radicale. Alors voilà, je vais vous parler d'une théorie, que, voilà, on trouve que c'est assez intéressant. il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites en France sur la sécurité radicale. C'est surtout un mouvement qui a été créé dans les États-Unis, un petit peu au Pays Basque espagnol, au sud. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Alors voilà, la psychiatrie radicale, il a été nourri de la, des deux courants, surtout de l'antipsychiatrie et de la psychologie humaniste. Alors voilà, je vais vous dire d'abord sur quoi elle a été nourrie de l'antipsychiatrie. Voilà, de l'antipsychiatrie surtout, c'est qu'elle a pris c'est la critique à l'idée des normes, les normes psychiatriques, voilà, comment ils ont fait les antipsychiatres. Aussi, ils critiquaient la dichotomie des fous sages. Voilà la différence, qu'on met la norme entre les fous et les sages. Aussi, il parle du contrat thérapeutique. Et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors voilà, ce contrat, c'est qui permet, c'est aux psychiatriciens de prendre du pouvoir face aux psychiatres. Ça veut dire que tout au début, quand tu vas voir un psychiatre ou un thérapeute en général, tu vas poser les limites de comment tu veux que ce soit la méthodologie, sous quelle forme, voilà. Ça permet au psychiatre de pas faire n'importe quoi,
Juste, c'est quelque chose vers lequel on essaye de tendre ou il donne un peu des billes sur comment pouvoir poser ça dès le départ avec un psychiatre.
Oui, c'est depuis les débuts, quand tu vois un psychiatre ou un thérapeute, voilà, tu fais un contrat, même par écrit et tout.
Ah, c'est contractualisé avec la personne.
C'est contractualisé avec la personne, tout à fait. Voilà. Comme ça, la personne qui est psychiatrisée, elle peut avoir les pouvoirs de décider s'il accepte ou pas. Voilà, normalement, quand on va voir quelqu'un, on est complètement paumé, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors, c'est la personne qui a tous les pouvoirs, il nous dit ce qu'il faut faire ou pas. Dans ce cadre, ce que tu limites, c'est les pouvoirs que va avoir les psychiatres. Tu vas quand même les forcer à rester dans les cadres qu'il t'a expliqué déjà. Voilà. Et il faut aussi que la personne te l'explique avec des paroles compréhensibles. Parce que s'il commence à te raconter une salade que tu comprends pas, ça veut dire que cette personne n'est pas fiable. Voilà. Parce que si on n'arrive pas à expliquer simplement une chose, c'est qu'on la maîtrise pas. Voilà. D'ailleurs, j'espère que je suis clair.
Ça va.
Voilà. Et aussi, l'antipsychiatrie, c'est qu'il prend, c'est voilà, la haine qu'il y avait ces gens-là contre les psychiatres en général, parce qu'il les pointe comme des gens potentiellement dangereux. Voilà, c'est une humanité même, ils disent ça. Voilà.
De par le pouvoir qu'ils ont sur les autres.
Ouais, exactement. Entre autres. Voilà. Et ouais. Et après, l'antipsychiatrie, il critique aussi des choses, parce que quand même. Voilà, ils ont eu des avancées par rapport à l'antipsychiatrie, depuis mon point de vue. Une des choses qu'ils critiquent de l'antipsychiatrie, c'est que l'antipsychiatrie est trop proche du freudisme et du néo-freudisme, parce qu'ils croient dans la thérapie individuelle, et comme on va voir un peu plus tard, voilà, les psychiatres radicaux, les gens qui font partie de ce courant, ils ne croient pas à la thérapie individuelle, ils croient plutôt à la thérapie en groupe. Et aussi, il critique à l'antipsychiatrie les faits que c'est impossible d'avoir une neutralité par rapport aux psychiatrices. Voilà, ce qu'il disait, ce qu'il essaye de dire, les freudiens, les neo-freudiens, c'est qu'il faut tendre vers une neutralité. Et les psychiatres radicaux, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il faut tendre, mais il faut aussi reconnaître que cette neutralité, c'est, à la limite, c'est impossible, parce que c'est pour ça qu'on fait ce boulot, c'est pour ça qu'on fait ça. Et même, il croit qu'il faut pousser aux psychiatrices, bien évidemment avec son accord, parce que tout l'explique depuis le début, et ils font ça pour des aliénés. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, il faut pousser dans ces méthodologies. Voilà, alors ça c'est par rapport à l'antipsychiatrie, par rapport à la psychologie humaniste, qui c'est un nom assez moche, après, psychologie du potentiel humain, c'est pas plus joli, mais voilà, ils ont choisi ce nom-là. Alors, ce qu'ils prennent de ces gens-là, c'est l'idée de que l'être humain, en général, on est capable de faire plein de bonnes choses. Ce qu'ils viennent de dire, c'est que l'être humain, avant d'être aliéné en société, parce que ils croient que l'être humain il est aliéné en société, c'est qu'il s'appelle, dans l'état naturel, avant que la société il nous aliène, on serait tous en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature. Voilà.
Les bons sauvages, quoi.
Les bons sauvages, ouais, c'est vrai que, comme la plupart des mouvements gauchistes, et ça fait partie, bien évidemment, ouais, malgré tout. Ouais.
Et ce serait l'aliénation sociale qui serait source de notre folie?
Ouais, exactement, de la domination. Ouais, comme ce que toi tu disais, là, voilà, bien évidemment, ce groupe de gauchistes, ils viennent d'une vision roussonienne, plutôt
rousseauiste,
plutôt du bon sauvage. Voilà. Mm-hmm. Moi, je partage pas tout à fait. Moi, je crois que l'être humain, il est capable de faire des choses merveilleuses, et les pires aussi. Mais je suis pas non plus Hobbesien, c'est dit, de Hobbes, qui dit que l'homme, c'est un loup pour l'homme, un truc comme ça. Voilà, moi, je suis un peu au milieu, je crois qu'on peut faire les deux. Mais voilà, en tout cas, ces gens-là, ils croient qu'en état naturel, c'est un peu dans un monde magnifique. Que d'ailleurs, ça me charge beaucoup plus, je crois que c'est un peu plus vrai. Alors, une autre chose aussi qu'il dit, une autre chose qu'il dit aussi, la psychiatrie radicale, il était fortement influencé par les mouvements anti-autoritaires des années 70 dans les États-Unis. Ça veut dire par les mouvements des femmes, des noirs, des gays et des lesbiennes. Voilà. Et,
qui prenait des thérapies groupales jusqu'à l'acte.
Mais ouais,
il y avait un espace pour se penser, mais la finalité de tout ça, c'était du côté de l'acte. On va agir sur nos conditions d'oppression et notre précarité.
Exactement. Et c'est exactement ce que je voulais expliquer.
Empowerment.
Empowerment, et même dans l'action. Pour eux, c'était pas que pour parler, c'est pour faire. Oh, les chemins de la libération, ça passe par l'acte. Mmh. Et voilà. Alors, il y a un petit schéma pour que ça soit un peu plus clair. Alors, comme ce que je viens d'expliquer, l'aliénation pour ces gens-là, c'est une oppression parce qu'on est tous dominés. Alors voilà, une oppression que ça peut provenir de la famille, du couple, de la société en général. Et aussi, cette aliénation, ça provient de cette oppression et d'une dissimulation de cette oppression. C'est ce qu'il s'appelle la mystification aussi. Ça veut dire que nous, on croit que c'est un dysfonctionnement à nous. Et ça, c'est la mystification. Et normalement, c'est les psychiatres qui font ça. Alors, si tu es un psychiatre radical, il faut déjà reconnaître que toi, tu vas être dans une place de pouvoir et tu vas pouvoir mystifier l'autre si tu l'expliques pas ça, que les problèmes, c'est pas toi. Les problèmes, c'est que tu as subi une domination. Voilà. Alors, pour ces gens-là, ce que tu es en train de dire, Sandra, c'est que la libération, ça passe déjà pour la conscience de cette domination. Ça veut dire reconnaître que, voilà, que tu as été dominé. Plus le soutien, parce qu'il faut rencontrer des autres personnes. Voilà, qui sont suivis la même domination. Comme ça, on peut se soutenir. Et bien évidemment, la fin, c'est pour agir, pour faire un truc. Voilà, alors c'est une magnifique formule. Ça nous amène à la libération. Voilà. Et après, voilà, je peux parler, par exemple, c'est pas l'auteur le plus connu. Il y a des autres aussi, mais on va dire que la personne la plus connue, c'est Claude Stirner. Et qu'au début, il a commencé avec l'analyse transactionnelle. Et voilà, l'analyse transactionnelle, il était assez ancré dans le freudisme aussi. Mais très rapide, il a passé à étudier les jeux de pouvoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les jeux de pouvoir? Les jeux de pouvoir, c'est les stratégies de manipulation qu'on fait tous pour faire aux gens des choses qu'ils vont pas. Voilà. C'est des conductes irrationnelles qu'on laisse apprendre depuis qu'on est tout petit. Voilà. Et on peut arriver à les dépasser si on connaît tous ces biais relationnels. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'en 1973, il y a eu une scission dans les sein de la psychiatrie radicale. Et c'est autour les risques du professionnalisme, hein, parce que voilà, il disait que les psychiatres, ils peuvent nous mystifier. Alors, ces gens-là, ce qu'ils viennent de dire, c'est que pour que ça soit l'idéal, il faut que ça soit un groupe de pairs qui luttent pour sa libération et qu'on se passe des professionnels, ça veut dire les psychiatres, les psychologues, et tous ces crics.
Voilà, autogestion.
Voilà. Autogestion de la folie, voilà, vers la libération. Exactement. Et voilà.
Malheureusement tu t'es raté, la l'horreur a commencé. Rallumé en toute urgence, en psychiatrie, ta dernière chance. Il t'en somme, t'as rien demandé, t'en somme pour ta tarnée.
Psychiatrie pour toute ta vie,
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 psychiatrie pour toute ta vie.
Les chirurgiens sont tous bons toi, ils vont te laisser dans cet état, t'es resté, il faut leur cacher, tu vas te voler en fait ta veille.
Tu te caches matin et soir, ton numéro sur ta blouse noire, que tu portes ton cher pignol, beaucoup mieux que la camisole. Pour cette forme de sécurité sociale, tu deviendras débile mental, ouais, ton cerveau va te lâcher, dans ta tête tu vas crever.
Psychiatrie pour toute ta vie,
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 psychiatrie pour toute ta vie.
cerveau, t'as plus de problème, moi tous les mots, tous les jours, c'est dans le coltard, dans ta tête, y'a un trou noir.
Mais dites maintenant que les suicidaires qui ont vécu une vie entière à alimenter de fric, vos putains de politiques. Mais dites maintenant que les suicidaires qui ont vécu une vie entière à alimenter de fric, vos putains de politiques.
Psychiatrie pour toute ta vie,
en 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 psychiatrie pour toute ta vie.
Et donc, c'est le petit moment de la lecture. Et j'avais envie de vous faire connaître un auteur que j'ai découvert par hasard, qui s'appelle Jean-Luc Payen, qui a publié en 91 un livre qui s'appelait « Un moment d'absence » et qui relate le quotidien d'une hospitalisation en psychiatrie, la sienne, en 1981. Voilà. Et donc, je vais vous lire un petit passage qui me semblait évocateur du type d'ambiance et de personnages qu'on peut croiser et qu'on est soi-même à l'HP. Donc là, pour vous situer le contexte, il vient de s'engueuler avec une femme qui voulait pas qu'il déplace sa table de ping-pong, et il sort dans la cour. Je file dans la cour sans chercher à en savoir plus. C'est la tactique qui s'impose. J'essaie de repérer une chaise libre des yeux. J'ai l'intention de m'installer confortablement, de sortir mon carnet et de mettre au point ma théorie sur les couleurs. Tout est déjà dans ma tête, prêt, clair et irréfutable. Ça va être un jeu d'enfant. Les bonnes couleurs, les mauvaises, pourquoi, comment, toute une géographie des pigments. Une chaise vide près de la porte, là-bas. Je démarre. Merde, voilà que quelqu'un me percute par le flanc arrière. Le temps d'un éclair, je me demande si c'est pas l'autre folle qui a soudain décidé de m'éperonner et de me faire la peau avec une fourchette limée. Je m'attends déjà à sentir ses griffes affairées se planter dans mon dos. Je me raidis et je me retourne. Non. C'est Paul, sa serviette en plastique sous le bras. Il bafouille. Excuse-moi. Ça va. Tiens, justement, il fait. Je voulais te montrer quelque chose. Nous nous remettons en marche vers le fond de la cour. Comme d'habitude, il marche à grands pas, à croire qu'une affaire urgente l'attend près du mur. 15 secondes de marche suffisent. Il y a là une petite cabane pour les outils du jardinier. Et, à côté de la cabane, encastrée dans le sol, une plaque de fonte, ronde, qui cache une entrée des égouts ou l'accès du système d'alimentation en eau de l'hôpital, je sais pas. Paul s'immobilise près de la plaque, les pieds bien posés sur les bords. Quelques-uns de ses cheveux se dressent au-dessus de ses oreilles, et les épaules de sa veste luisent comme si on venait de les beurrer au couteau. Il pointe un doigt vers la plaque. « Tu vois, ils sont là, » dit-il. Il semble extrêmement calme. Ses yeux couvrent la plaque et sa voix ronronne presque. « Qui, je fais ?»« Les étrangers, les martiens, » dit-il. « C'est par là qu'ils arriveront. »« Attends, je comprends pas très bien. Ils arrivent ou ils sont déjà là ?»« Ils sont là. Au moins quelques-uns, c'est certain. Ils attendent leurs heures. » Je baisse les yeux vers la plaque d'égout, rongée par la rouille et couverte de touffes de mousse qui se détachent par petits morceaux. C'est son truc, son voyage, son délire. J'ai beau fixer cette entrée du monde souterrain, je n'y crois qu'à moitié à son histoire de martien. Un peu quand même. J'aime bien. Après tout, on sait jamais. Comment tu sais ça ? Je demande. Je le sais. C'est par là qu'ils vont envahir le monde. Je ne dis rien. Son histoire est intéressante, il faudra que j'y réfléchisse. C'est pas la première qu'il me sert. Paul en a tout un stock. Je crois d'ailleurs qu'il passe ses journées à les peaufiner dans sa tête, comme s'il s'agissait de petites pierres précieuses. Il coince sa serviette un peu plus haut sous son bras et redémarre. Nous faisons 2 allers-retours dans la cour, passant à toute vitesse devant les grands mémés endormis, avant qu'ils se remettent à parler. « Je vais te dire autre chose, » commence-t-il. « Peu de gens le savent, mais cette ville est un vrai gruyère. Dessous, elle est pleine de trous. » Là, il m'inquiète un peu plus. J'aurais tendance à y croire. Dès qu'il s'agit de complots ou de choses cachées, je démarre immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» je demande. « Rien de plus que ce que je suis en train de te dire. Dessous, c'est plein de trous, et inévitablement, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Tu comprends ? La ville va s'effondrer, et tout disparaîtra, tout !» Je ne comprends que trop bien. Mon souffle se raccourcit, se trouble, perd le rythme. « Non, je te crois pas, il y a des gens qui seraient au courant si c'était vrai. » Un certain nombre de gens le savent. Mais il ne croit pas que tout puisse s'écrouler. Il n'y croit pas, et les autres l'ignorent, Alors, hop, hop, hop. Alors, je tourne la page. Il s'arrête brusquement, comme si un mur invisible venait de se dresser devant nous, et il se laisse tomber sur une chaise. Il y en a une autre de libre, je m'installe aussi. Il ouvre sa serviette et en sort quelques journaux un peu jaunis. C'est le journal des Rose-Croix. Il se met à tourner les pages à toute vitesse et s'arrête sur un article qui couvre deux pages entières. Je suis affilié à cette société, tu vois, et je reçois le journal une fois par mois. Regarde là, ils en parlent. Paris sur gouffre. Il me passe son canard. Il y a quelques photos, des dessins explicatifs. Tout à coup, j'ai les doigts humides de sueur. La mairie serait-elle au courant? Les promoteurs, les commerçants? Cachent-ils les faits par peur de la panique? J'imagine l'événement. Paris s'effondre. Gros titre dans la presse internationale. Millions de morts. Hordes de reporters armés de caméras Sony. Frénésie médiatique. Pont aérien. ONU. Croix-Rouge. Pourquoi pas? C'est pour bientôt? Je demande. Paul va répondre. Un drôle de bruit jaillit alors de sa bouche. Un bruit humide. Le bout de sa langue apparaît entre ses dents, il porte la main à sa bouche et enlève son dentier. Le secoue. Il le remet en place d'un geste précis. Je m'en rends compte qu'il n'a plus une seule dent à lui. Où sont-elles donc passées? Il n'est pas si vieux. 30, 35 ans? Excuse-moi. Oui, tu me demandais si c'était pour bientôt. Eh bien, on n'en sait rien. Mais c'est inévitable. Il me fixe tranquillement. J'essaie de réfléchir. Ces dizaines de millions dépensés dans la construction des immeubles de la Défense, la rénovation des quartiers, mon immeuble posé à la lisière du 13e, il délire, Paul. C'est drôle comme on entre difficilement dans le délire des autres. Chacun chez soi. On devient rapidement pragmatique, objectif, le bon sens et la raison à court. Pourtant, j'ai encore un petit doute. Je sens que je vais y repenser souvent à l'écroulement de Paris, que je ne vais pas m'en tirer aussi facilement. Et je vais encore te dire quelque chose, poursuit Paul. Ceux qui attendent dans le sous-sol jailliront à ce moment-là. Et voilà, la boucle est bouclée. Je hoche la tête sans le regarder. Du coin de l'œil, j'aperçois la femme de tout à l'heure. Elle a replacé la table de ping-pong contre la porte du pavillon. Elle est allongée dessus et regarde le ciel en agitant les bras et les jambes. Paul m'a sorti sa théorie. Je ne peux rien lui demander de plus. Vais-je en faire autant? Lui raconter mes petites histoires? Je ne crois pas. Ce serait comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. Paul, il y a longtemps que tu es ici? 3 ans. Tu poses partir un jour? Il a remis ses journaux dans sa serviette. Il la referme calmement. Non, je ne crois pas. Je pourrais si je voulais, mais je n'en ai pas envie. Tu veux dire que tu préfères rester ici? Oui, c'est ça. Je suis bien ici. C'est vrai qu'il a l'air bien. Les gens qui connaissent la guerre disent que l'on peut savoir qui va mourir, qui va survivre, rien qu'à la tête des soldats. Ici, c'est pareil. Paul, je sais qu'il restera ici jusqu'à la fin de ses jours. Il a une tête à ça. Ce qui se passe à l'extérieur ne l'intéresse pas, ne l'attire pas, lui fait peur. Tu as été marié, je lui demande. Il se met à sourire. Non, mais j'ai vécu avec une femme pendant 1 an, il y a longtemps. J'ai du mal à l'imaginer avec une femme. Quel genre de femme? La Castafiore? Il y a longtemps, il avait peut-être une autre allure. Il ne ressemblait pas encore à une grenouille neurasthénique. Il prend sa serviette en plastique noir et se lève. Ce gars-là ne peut pas rester en place plus de 5 minutes. « Je te laisse !» il fait. « Je vais marcher un peu !» Il s'en va. Il se met à arpenter la cour, de long en large. Il secoue la tête. Je vois ses lèvres bouger. On dirait une sauterelle. Il ne lui manque plus que les antennes. Et voilà, une petite scène.
Bien.
Longue lecture, petite scène, mais voilà. Je trouvais ça assez évocateur du type de personne qu'on peut croiser. Sur Internet, on trouve une interview de Payen, je ne sais pas si on pourra vous la diffuser un jour, où il critique l'HP dans l'angle aussi, que c'est le chaudron de la folie et que les délires s'alimentent les uns les autres. Moi, j'aurais juste... un regard un peu différent et de dire que c'est justement la présence du délire des autres qui rend l'HP supportable et que c'est vraiment des surprises en permanence et que c'est ça qui... Voilà.
Et puis Payen, il le dit aussi, il s'interroge, il dit mais c'est bizarre, on rentre difficilement dans le délire des autres.
Ouais.
On a chacun notre certitude de ce qu'on vit et on rentre pas dans celui de l'autre.
Ouais.
C'est vrai qu'après, à se mélanger de fous, entre guillemets, on pourrait être envahi des angoisses des autres. Tout dépend...
Ou des joies.
ou des joies des autres. En tout cas,
on m'a déjà proposé de passer la frontière allemande avec des messages sous ma selle de vélo, par exemple. Et après, on me faisait des clins d'œil dans le couloir. C'était bien.
En tout cas, le passage décrit bien l'ambiance de l'HP, entre guillemets, avec la personne qui est allongée sur la table de ping-pong, avec ses métaphores sur la grenouille neurasthénique ou la sauterelle. De suite, on fait des comparatifs avec les animaux.
Jungle.
Jungle, oui.
Jungle. Alors peut-être maintenant, on va parler vite fait, parce qu'on aurait le temps de parler une autre fois... Voilà, beaucoup plus tranquillement, sur le groupe d'appui de Madrid. C'est le groupe de soutien de Madrid. Et voilà, qu'est-ce que c'est, ce groupe-là? Alors, c'est un groupe de psychiatrices qui s'est réuni toutes les semaines pour parler et pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Alors voilà, c'est un groupe où il n'y a pas de spécialistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologues, il n'y a pas de psychothérapeutes, il n'y a pas de psychiatres. Même si, entre eux, ils essayent de se armer, de réarmer, ils commencent à avoir un certain nombre de savoirs que parfois ils les utilisent, du genre, je sais pas, quand on a du mal à dormir, voilà, ils se sont trouvés des petits astuces pour mieux affronter ces moments-là. Et comme ça, il y a plein d'autres, des autres armes qu'on peut utiliser. Il y a un bon paquet aussi qu'on peut lire et les jeter à la poubelle, mais il y a des autres aussi qu'on peut utiliser. Et ces gens-là, ils font ça. Et par exemple, voilà, ce qu'ils font, comme on avait parlé déjà de l'idée des contrats, alors entre eux, c'est un groupe de pairs, ils font une espèce de contrat pour se soutenir et pour lutter aussi. Et une des choses qu'ils font pour se soutenir, c'est se donner quelques règles. Par exemple, si une des personnes, par exemple moi, je sais que chaque fois que je fume un pétard... voilà, après je me sens pas bien parce que voilà, je parle plus j'ai mis seul, mais voilà, j'ai reconnu ça entre mes pères, j'ai dit mais quand j'ai fait ça m'arrive ça, écoute, et voilà, les autres pères m'ont dit mais écoute, peut-être que voilà, on peut décider ensemble qu'à ce moment-là voilà, tu fumerais plus, nous on fume pas, mais toi tu fumes plus avec nous, et ces contrats il faut les respecter. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne les respectes pas? On rediscute encore du contrat, on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais il y a un moment que si on n'est pas capable de respecter les engagements collectifs sur lesquels voilà, on est ensemble, voilà, il y aura un moment que tu ne pourrais plus faire partie du groupe. Et comme ça, ils se donnent beaucoup plus de autres règles. Par exemple, ils disent qu'en général, ils disent voilà, c'est un peu des généralités pour avoir une hygiène de vie, mais que je trouve que c'est intéressant aussi, que voilà, par exemple une des choses qu'ils disent, c'est voilà, qu'il faut respecter les sommeils, qu'il faut dormir, qu'il faut se reposer, qu'il faut pas prendre des drogues, d'alcool entre autres, que il faut avoir une activité physique, parce que voilà, et aussi qu'il faut se donner quelques horaires. Et aussi voilà, par rapport à l'alimentation, voilà, c'est un classique aussi, ils disent que voilà, il faut bien manger et surtout des aliments qui sont fraîches, les fruits, tout ça.
Et ça a été communément mis en place par le groupe. Ils se sont aperçus que le quotidien n'était pas évident et qu'ils avaient besoin de ces principes-là pour fonctionner ensemble.
Mais ouais, tout à fait. Entre eux, parce qu'en plus ils sont dans une dynamique de lutte, entre eux ils se sont rendus compte que eux, ils fonctionnaient mieux, quand il dormait mieux, quand il prenait pas de drogue, quand il mangeait bien, quand il faisait un peu d'exercice. Et voilà, entre eux, ils ont dit que si, pour moi, personnellement, ça va bien, pour toi, personnellement, ça va bien, bon, on est un groupe, et un groupe, on va dire que c'est mieux comme ça. Et comme ça, on est capable de tenir debout mieux, et aussi, on est capable de mieux lutter pour notre libération, comme ce qu'on avait dit avant.
Et du coup, ils ont des discussions régulières entre eux sur ces principes?
Oui, c'est une fois par semaine.
Une fois par semaine.
Une fois par semaine. Et après, ils font aussi des choses par rapport au, ils font ça des choses publiquement pour entrer dans une dynamique de lutte. Voilà, ils s'organisent des événements, des débats et des autres choses aussi. Mais peut-être qu'on aura l'opportunité un jour de parler plus tranquillement de ça. Et même peut-être qu'on aurait la chance de les inviter à une antenne.
Ouais. Moi, il y a juste ce truc de contrat, c'est pas un terme qui me satisfait vraiment. Mmh. Et puis, je trouve qu'il manque dans les règles d'hygiène de vie aussi le truc de la soupape. Qu'est-ce qu'on s'autorise comme soupape? Parce que je pense que l'être humain qu'on est en société, on a besoin à un moment de pouvoir aussi quand même péter les plombs ou se faire des parenthèses. Et ça doit être dans les clauses du contrat. Ça peut être possible, peut-être, en ayant parlé avant, quoi. En lien avec les prises de drogue, je sais pas. Après. Sinon, c'est les nouveaux assets éclairés.
Mais, ouais.
Mais révolutionnaire performant.
Mais ouais. Après, c'est eux qui ont décidé ça.
Oui, c'est pas ils vont pas prêcher la bonne parole.
Non. Bon, peut-être oui, et peut-être pourquoi pas. Ils vont dire que pour eux, ça fonctionne. Pourquoi pas ça va fonctionner pour les autres. En tout cas, ils vont pas t'empêcher de voir une bière si tu veux, avec eux. Mais en tout cas, tu feras pas partie de son groupe, tout simplement. Peut-être. Mais,
je serai exclu direct.
Tu sais, ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais c'est des trucs à discuter. Mais ouais, c'est vrai que l'idée des contrats en soi-même, c'est assez moche. Quand je pense dans un contrat, je sais pas pourquoi, mais je pense toujours au boulot. Quand j'ai travaillé, il y avait un contrat toujours. Alors, ça m'en fait pas trop plaisir. Mais c'est pas comment le dire de notre manière. Un engagement, peut-être.
Un engagement. Après, c'est intéressant parce que c'est quand même des grands thèmes qu'on aborde souvent dans des petits groupes de discussion, comme le sommeil, l'alimentation. Enfin, c'est vraiment la base. Si tout fonctionne bien, entre guillemets, ben, on se les pose pas, ces questions, mais c'est quand même des petits principes à se trouver pour soi qui fonctionnent. Et là, du coup, ils le mettent vraiment en avant comme principe groupal.
Et tu parlais de petits groupes de discussion. On peut en profiter pour glisser deux mots sur les rencontres au CREA.
Au 70, allée des demoiselles.
Ouais. Il y en a eu une vendredi dernier, une deux semaines avant, et la prochaine...
C'est le 23.
Vendredi 23 à 19h.
C'est vendredi, c'est l'après.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est vraiment un espace contre la fatalité psychiatrique pour essayer de se réarmer au sens échanger sur ces espaces, sur ce qu'on vit et sur notre folie au sens large.
Ouais. Et puis on a pu faire un groupe non mixte, notamment non mixte passé par l'HP, passé par la folie, et le sommeil, ça a été l'objet de bien des discussions. C'est vrai que une fois sous somnifère, etc., comment on s'en sèvre, comment on arrive à retrouver une qualité de sommeil satisfaisante sans multiplier les rituels de j'ai besoin du chat sur moi, de la bouillotte à côté, de la petite bougie, de ci, de ça. Et comment le groupe peut appuyer, peut soutenir pour retrouver un sommeil. Il a même été évoqué le cododo.
C'est quoi les cododo?
De retrouver un sommeil à plusieurs, c'est quoi? c'est cododo, c'est le principe, tu t'endors pas tout seul. Le souci qui était évoqué, c'est que du coup, la personne qui est insomniaque, elle s'endort après tout le monde quand même. Mais bon, au moins, elle a eu un moment de
soutien, de soutien. De présence.
Ouais, voilà. Voilà.
Donc du coup, le CREA, vous êtes les bienvenus pour venir prendre part à cet espace qui a lieu tous les 15 jours. L'idée, c'est vraiment de créer un espace de discussion récurrente autour de ces thèmes pour qu'on puisse s'en sortir un peu et sortir la tête de l'eau d'un système institutionnel qui ne nous laisse pas penser les choses.
Ouais. Pour donner une idée, vendredi dernier, la première fois, on était bien nombreux, peut-être même trop nombreux. Je sais pas, on était une trentaine. Après, on était une quinzaine et on s'est dispatché en plusieurs groupes de discute et on s'est dit qu'on allait les garder un peu comme fil conducteur jusqu'à épuisement du sujet.
Ouais, on a parlé de qu'est-ce que c'est l'HP, on a parlé de qu'est-ce que c'est que nos souffrances au sens large. Qu'est-ce qu'il y a?
Les réseaux de soutien. Sur les médicaments.
Les réseaux de soutien aussi.
Les réseaux de soutien. Ouais. Et il y a un groupe sur le corps qui veut se monter aussi.
Voilà, donc il y a 5 ateliers. L'idée, c'est de les maintenir dans le temps et
pour pouvoir tourner, changer d'atelier.
Voilà, et ceux qui viennent ont entre les mains au mieux le compte-rendu de la fois d'avant et on le lit et on repart de ce qui a été fait pour essayer d'avancer, d'acter un petit peu des choses.
Et aussi avoir la possibilité de peut-être proposer des nouveaux sujets.
Tout à fait. Voilà. Ouais.
Mais écoute, c'est presque à l'heure, non, on dirait.
On voulait faire un gros, gros merci à Suzanne.
À Suzanne, à la technique qui dodeline de la tête. Merci Suzanne.
Et merci d'avoir pris part à l'écoute de cette première. C'est vraiment la première, on teste plein de choses.
Ouais, c'est clair. Ça, c'est ça.
Voilà. Y compris le générique. Allez.